L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous et bon week-end. Merci d'être avec nous sur BFM Business. C'est parti pour l'atelier numérique, votre rendez-vous dédié à la high-tech. Vous le savez, l'économie numérique, toute l'actu high-tech. Chaque samedi, 16h-18h, avec toute l'équipe de l'atelier qui est là. Je tiens à saluer dans ce studio à mes côtés Constance Guyon, Aurore Géraud, Lila Megraoua. Du côté de l'atelier US, c'est Nathalie Doré qui est avec nous. Bonjour mesdames et mesdemoiselles.
Bonjour.
J'adore, je suis super bien entouré. Bon, de temps en temps, malgré tout, nous aurons quelques présences masculines avec Jean de Chambure qui sera là pour notre rendez-vous Vue d'Asie. Nous aurons aussi Guillaume de Groisse tout à l'heure. On parlera du transport avec lui et puis bien sûr le crash test avec Antoine Cyr. Au menu de cet atelier, dans un instant, l'actu vue par toute l'équipe de l'atelier. Notre Silicon Carnet, on va parler de RH 2.0 avec Nathalie, notre cyber gadget avec Constance. Focus Startup, on va s'intéresser à Kiabi qui se lance dans le Big Data, les amis. Eh ouais, l'enquête de l'atelier, on vous fera découvrir deux expériences shopping étonnantes made in France, Lila.
Yes.
Avec les représentants des deux startups que nous aurons avec nous tout à l'heure. La web stratégie de Roche, qui investit dans l'innovation. Le bad buzz aussi. On en parlera tout à l'heure lorsqu'une marque est en pleine crise sur Twitter. Comment gérer ce bad buzz? Il y a des parades, il y a des solutions. On verra ça. Notre World Tour, dossier de l'atelier, direction aussi tout à l'heure la rédaction de zeronet.com avec Eric Le Bourlou. Bref, vous savez tout. Soyez les bienvenus. Et on commence par l'actu vue par l'équipe de l'atelier. Qui va commencer aujourd'hui? J'ai l'embarras du choix. Allez, puisqu'elle est loin, puisqu'il pleut, alors que d'habitude elle nous dit qu'il fait toujours beau à San Francisco, on va commencer par Nathalie Doré.
Et oui, en effet, El Niño est parmi nous depuis plusieurs semaines, mais bon, on s'y fait.
Donc vous avez des
alors,
bottes,
moi, je voulais...
c'est ça hein,
voilà, la mode est aux bottes de pluie à San Francisco actuellement, customisées.
Merci.
Bien sûr, parce qu'ici, il faut rester tendance.
Merci pour cette petite parenthèse mode et fashion dans l'atelier.
Qui n'a rien à voir avec la news que je voulais partager avec vous. Donc,
allez-y.
Moi, je voulais vous parler distribution, commerce, puisque cette semaine, les États-Unis donc vivent sous l'événement phare qui est la NRF. Donc la NRF, c'est National Retail Federation, et c'est un salon donc qui regroupe tous les professionnels du retail et qui a lieu à New York. Donc ça avait lieu cette semaine et ils ont encore battu un record cette année. Ils ont eu plus de 33 000 participants. Et tenez-vous bien, la France était d'ailleurs parmi les 10 pays les plus présents. Donc voilà, beaucoup de Français à New York cette semaine. Alors, à l'occasion de la National Retail Federation Show, du coup, on a vu passer pas mal d'études, de chiffres, de tendances. Et je voulais en partager certaines avec vous, notamment communiquées par Salesforce dans son rapport sur le shopper connecté. Alors, ils font d'ailleurs rappel d'une étude de McKinsey qui dit que d'ici 2020, 80% des transactions d'achat auront toujours lieu dans un magasin physique. Donc voilà, on arrête de mettre le digital en face du physique et dire que ça va tuer le physique. Ce n'est pas vrai.
Les deux vont cohabiter en fait, c'est ça. Hein.
Exactement. Mmh. On parle de convergence. Et en effet, l'étude montre que 100% de ces transactions qui ont lieu dans un magasin utiliseront du digital. Alors, on parle notamment de vendeurs augmentés, ces vendeurs qui vont être de plus en plus assistés avec des data qui proviendront d'Internet, que ce soit de la base de données du magasin ou que ce soit même de base extérieure pour mieux comprendre le client et mieux le servir. Alors, ces vendeurs augmentés, comme on les appelle ici, ils sont d'ailleurs challengés, car près de la moitié des consommateurs ont l'impression d'en savoir plus sur le produit qu'ils sont en train de chercher que le vendeur qui veut leur vendre. Donc ça, c'est pas nouveau. On le sait, et du coup, toute cette tendance d'accompagner le vendeur est très importante. Autre chiffre intéressant, 38% des consommateurs espèrent que le vendeur sait ce qu'ils ont déjà acheté, que ce soit online ou offline, dans l'enseigne. Donc ça, c'est intéressant aussi à regarder avec tout l'aspect parcours client, connaissance client. Les marques ont parfois sont un peu frileuses à collecter beaucoup de data sur client et lui dire, parce qu'elles ont peur de passer pour Big Brother. Ben non, le client attend à ce qu'on le connaisse et tout cela pour mieux le servir. Voilà, donc François, vous avez tout deviné, on parle de Converge Retail et non plus de e-commerce d'un côté et de retail physique de l'autre. C'était donc le maître mot de cette semaine à New York.
Parfait. Bon, qui va assurer après cette magnifique news? Constance.
Eh bien, pour mon entrée sur la piste, je vais vous parler d'assurance automobile. Si vous pouvez me permettre ce petit jeu de mots. Alors en fait, très brillant.
Oui, oui.
Donc, c'est une jeune start-up d'Édimbourg qui s'appelle Cuva,
Non, restez calme.
Voilà.
Constance, ça va bien se passer.
Donc, qui propose en fait une assurance automobile seulement à l'heure. Car il faut savoir que jusqu'à présent, quand on emprunte l'automobile d'un proche ou d'un ami, les formules d'assurance se font souvent à la journée, en fait. Donc, ça entraîne en plus des formalités dans les compagnies d'assurance assez longues, une perte de temps, voilà, et beaucoup de papiers. Donc, pour contrer tout ça, la start-up Cuva propose une application mobile qui permet à l'utilisateur de rentrer directement ses informations d'identité. Donc voilà, il faut quand même accepter de divulguer des informations assez personnelles, mais c'est sécurisé. L'application ensuite prend un selfie de la personne pour s'assurer que l'identité correspond bien, demande le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule qui va être conduit,
oui,
et la durée de l'assurance souhaitée. Donc ensuite, l'utilisateur va recevoir voilà un taux pour savoir s'il accepte finalement la transaction. Et si oui, il est instantanément couvert pour la période durée, donc ça peut être une heure ou deux pour accompagner quelqu'un.
Et en plus, ça doit être économique. Parce que j'imagine que ça serait deux heures, ça coûte moins cher
que 24
heures.
Ça coûte beaucoup moins cher, voilà, qu'à la journée. Et ça, c'est disponible donc pour tous les conducteurs de plus de 21 ans qui sont détenteurs du permis au Royaume-Uni. Donc on peut penser que ça va bientôt se populariser dans d'autres pays, cette formule vraiment à la demande de courte durée. Après, voilà, enfin, il y a pas mal de services maintenant qui proposent des services comme ça.
Parfait.
Formule mini.
Et encore bravo pour votre blague, Constance. Orangero.
Oui, alors moi, je vais vous parler d'aéroport.
C'est pas mal.
Mais plus de la difficulté d'aller rapidement d'un point à un autre dans les aéroports. Est-ce que si je vous proposais demain... un avion personnel.
Ça
serait pas mal. De vous implanter une puce pour que ça aille plus vite, est-ce que vous le feriez?
Non, je préfère mon smartphone.
Oui, non, mais je préfère même prendre un petit peu d'avance et y aller à pied.
Oui, c'est ça. En tout cas, c'est ce qu'a essayé de faire le vice-président de Sogeti à Stockholm. Il s'est implanté donc une puce qui est créée par une entreprise qui s'appelle Dangerous Things. Ça donne vraiment,
vraiment
ça
envie.
Ça donne envie.
Ils ont bien baptisé leur boîte.
Une entreprise donc qui produit des puces biologiques, enfin qui s'incrustent dans le corps, et donc il s'est intégré cette petite puce et qui avait comme élément à l'intérieur sa carte de membre, et il a passé tout l'aéroport juste en posant sa main sur les lecteurs NFC.
D'accord.
Donc
mais il a passé la douane aussi avec ça?
Je sais pas.
Ou simplement l'embarquement?
Non, il a fait tout la. Oui, parce qu'il y avait même. Comme il a sa carte de membre, ça prend aussi son passeport.
D'accord.
Donc, du coup, il a tout passé. Et donc, ils vont mettre en vente un kit. Parce qu'en plus, ce qui est assez sympa, c'est que pour s'introduire la puce, on peut le faire nous-mêmes. Il y a une seringue, il y a un petit scalpel, des gants, et on s'introduit une puce.
Oh,
dans
c'est
la...
mignon.
Bah oui.
C'est sympa.
Et c'est fait en accord avec Scandinavian Airlines qui a décidé de voir comment on pouvait améliorer l'expérience client. Donc un peu effrayant.
Oui, parce que j'imagine que n'importe qui peut mettre la puce de n'importe qui, sous la peau, quoi. Enfin, je veux dire, je pense qu'il doit y avoir des vérifications d'identité, des trucs comme ça.
Il faut que la puce soit faite par Dangerous Things et qui je suppose se met en contact avec Scandinavian Airlines.
Oui. Bon, après les chiens, on va pucer les humains maintenant, les amis. Rappelons que les chats, les chiens sont pucés. Hein.
Mais il y avait eu une expérimentation en entreprise, il me semble, où je ne sais plus quelle entreprise avait opéré cette expérimentation, mais ils avaient constaté, ils avaient proposé à tous leurs employés un badge sous forme de puce, d'implant, et en fait ils avaient constaté que 70% de leurs employés, pour se ménager plus de temps, tout simplement, ou ne plus avoir à rechercher son badge éternellement dans son sac,
ils ont
accepté. Exactement.
D'accord.
Exactement.
Bon.
C'est curieux.
Bizarre.
Ouais.
C'est bizarre.
Lila, une petite news pour nous?
Oui, alors après l'AssureTech dont Constance nous a parlé, je vais vous parler d'une
petit tour de piste.
Exactement. Je vais vous parler d'une fintech. Alors fintech, croisement entre l'univers bancaire et financier et les technos. Donc là, c'est tout simplement une start-up berlinoise fintech qui s'appelle Number 26, qui a lancé un service plutôt intéressant, Cash 26. L'idée, c'est tout simplement de s'associer au commerce de détail, aux commerçants. Donc ça peut être les librairies, ça peut être les supermarchés, les drogueries, les parfumeries, les pharmaciens. Pour en faire quoi ? Pour en faire une agence bancaire. Alors, pas une agence bancaire avec avec des bornes, mais tout simplement l'idée c'est d'utiliser les caisses de ces commerces pour en faire des formes de caisses à la fois de dépôt et de retrait d'espèces. Ah, alors concrètement, ça va se présenter à partir de votre application Number 26, Cash 26. Vous allez demander, voilà, moi j'ai besoin de 20 euros. De retirer 20 euros. Où est-ce qu'il y a un commerce qui
est
peut
compatible,
me fournir,
voilà, qui propose ce service,
qui peut me fournir ces espèces là. Là, à partir de là, l'appli va générer un code-barre qui est reconnu par le supermarché en question, par la droguerie.
C'est génial ça.
Pareil, si vous avez besoin de déposer 150, 200, 200 euros, même principe, vous passez en caisse et là vous avez directement la somme qui est créditée ou débité sur votre compte. Et surtout,
c'est
ce
peut-être
qui est
la
assez
mort
malin,
des DAP, ça, non, finalement, à terme.
À terme, ça pourrait.
Après, c'est très culturel.
À terme, ça pourrait. Après, effectivement, ça correspond énormément aux pratiques de paiement et de retrait des Allemands, qui se baladent avec toujours énormément d'espèces, qui ne sont pas très friands des cartes de crédit et débit. Donc ça, c'est plutôt adapté à leurs habitudes. Et après, l'avantage, ce qu'il nous expliquait le patron de Number 26, c'est que pour lui, ça lui permet assez rapidement d'avoir, ok, je suis une banque en ligne, mais j'ai assez facilement un point physique.
Oui, bien sûr.
Et là, aujourd'hui, en Allemagne, ça représente 8 à 10 000 commerces qui sont partenaires
Et qui voient peut-être leur trafic aussi augmenter, parce que on rentre dans ce commerce pour retirer l'argent, on peut peut-être rentrer pour acheter quelque chose. Hein.
Exactement, c'est tout l'intérêt.
Merci beaucoup Lila. Et maintenant, place à notre rendez-vous depuis l'Asie avec Jean de Chambure qui est là, le vu d'Asie de Jean. Bonjour Jean.
Bonjour François.
Alors Jean, qui vous le savez, est à Shanghai. Et Jean, on va parler aujourd'hui du O2O, du online to offline en Chine.
Oui François, c'est une grande tendance hein, de l'internet en Chine. Je sais même plus si on peut parler de l'internet en Chine. En fait, c'est du mobile en Chine, tellement tout est sur téléphone mobile, tellement on voit les usages aujourd'hui centrés, concentrés, intégrés sur le mobile. Enfin, quoi qu'il en soit, donc vous l'avez compris, le online to offline, c'est quoi ? C'est des services de la vie courante, de la vie en dehors du mobile. Ça peut aller, bien sûr, par exemple, d'un chauffeur privé. Vous savez qu'il y a le fameux Didi Kuaili en Chine, en passant par des services de pressing, des toutes sortes de livraisons, de la manicure à la maison. Vous savez que les Chinois sont très friands de manicure et de massage. Eh bien, voilà, tout est possible grâce au online to offline. Et il y a plein de startups qui se sont montées sur ce sujet-là. Mm-hmm. Il y a une explosion vraiment des investissements. Donc qui ont quadruplé en ce domaine-là. Néanmoins, il y a eu dû au soubresaut boursier, il y a eu quelques complications. Il y a eu notamment le fameux Kung Fu Beer qui a été un peu malmené après un excellent lancement. Le Kung Fu Beer, donc c'était du massage à domicile. Hein. Et donc voilà, ils ont été en difficulté après des soubresauts boursiers. Les VC se sont un peu retirés de leurs activités. Du coup, ils ont été menés à mal. Mais néanmoins, il y a de très beaux succès. Mm-hmm. Il y a quelques exemples assez étonnants avec des animaux fort curieux.
Oui, comme par exemple, mon cher Jean, le petit cochon chinois.
Exactement. Alors le petit cochon chinois qu'on appelle le Zhubaijie, alors le Zhubaijie, je ne vais pas vous faire toute l'histoire du Zhubaijie parce qu'il y a des experts qui en parlent mieux que moi, mais en fait ça vient de la dynastie des Ming, ça vient d'un roman qui s'appelle les pérégrinations vers l'Est, les pérégrinations vers l'Ouest, pardonnez-moi, donc c'est un moine qui va de la Chine vers l'Inde pour retrouver un manuscrit sacré. Il est entouré d'animaux qui sont un peu des réincarnations de personnages, dont un petit cochon un peu fainéant. que les Chinois aiment beaucoup, qui ont vu en BD, donc qui est très très populaire. C'est un peu l'Astérix, si vous voulez, chinois, hein, le Zhubaijie. Donc il y a un site internet qui s'appelle Zhubaijie.com, qui a bien sûr une version anglaise, hein, qui s'appelle Whitmart, pardonnez-moi. Eh bien, que fait ce petit cochon fainéant? Ce petit cochon fainéant, en fait, est très intelligent. Parce que il a déjà 15 millions d'utilisateurs enregistrés. Il a un chiffre d'affaires qui est de 7,5 milliards de yuan, et il vise 10 milliards de yuan cette année, c'est-à-dire à peu près 1,5 milliard de dollars. Oui. Et en fait, l'idée, elle est très très simple, c'est s'appuyer sur toutes les richesses des forces vives du design chinois. Donc en fait, tous les Chinois qui sont à l'étranger aussi l'utilisent énormément, que ce soit des Chinois qui sont aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne. Mm-hmm. Il y a 25 pays qui utilisent cette application. Généralement, ce sont donc des Chinois qui ont entrepris à l'étranger. Et voilà, ils peuvent à la fois faire des sites qui ressemblent vraiment un peu à des sites chinois avec la culture chinoise, c'est-à-dire en gros pas mal de couleurs, beaucoup de caractères, quelques photos, c'est vraiment le style chinois qui fonctionne. Ils peuvent aussi maintenant tout simplement, c'est d'ailleurs pas toujours si simple, mais en plus du web design, des logos, des services de traduction, ils peuvent aussi assurer leur marque. C'est intéressant d'ailleurs de voir que de plus en plus de Chinois assurent leur marque, donc protègent leur marque. Cette notion de copyright devient de plus en plus importante pour les entrepreneurs chinois. C'est un bon signe, c'est un signe de qualité. Voilà, donc c'est notre petit cochon dont je voulais vous parler aujourd'hui, le Zhubaijie. Oui. Allez regarder ce site, c'est vraiment le beau reflet de la Chine digitale.
Merci beaucoup Jean de Chambure.
Merci François.
Et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier. Silicon Carnet, Cyber Gadget, c'est à suivre et c'est sur BFM Business. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. On va parler de RH 2.0 dans un instant avec le Silicon Carnet de Puy, San Francisco, avec Nathalie Doré. Mais auparavant, c'est notre rendez-vous Cyber Gadget. D'habitude, c'est Antoine Cyr. Cette semaine, c'est Constance qui s'y colle.
Bonjour François.
Rebonjour ma chère Constance. Donc, alors, attention, là vous avez un gadget en plus qui a un peu d'actualité. Bon, il faut pas se voiler la face, on se les caille.
C'est ça.
On est d'accord.
Du coup, je vais vous parler de plusieurs paires de gants, plein de paires de gants.
Ça, c'est très bien.
C'est mon sujet du jour pour affronter le week-end.
C'est très bien.
Alors, le premier paire de gants.
La semaine prochaine, ce seront les écharpes.
Puis les bonnets, on continue, on ne s'arrête plus.
Pas tout.
Donc voilà, la première paire de gants, c'est un gant médical qui sert à aider les patients qui sont victimes de la maladie de Parkinson dans leur quotidien. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 4 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes par cette maladie, qui entraîne pour une grande partie d'entre eux, du coup, des tremblements de plusieurs parties du corps et notamment des tremblements des mains qui peuvent être très dérangeants pour le quotidien de ces personnes. Donc pour faire face à ce problème, il y a une équipe de chercheurs et d'étudiants à l'Imperial College School of London qui a lancé en fait une paire de gants spéciale qui a au-dessus du gant une sorte de système de gyroscope qui permet de réduire les tremblements de 80%. Alors en fait, ça crée une sorte de résistance avec un mouvement de toupie à l'intérieur qui s'oppose au mouvement du tremblement. Et du coup, qui permet vraiment de le limiter.
Ah oui, ça annule en fait les tremblements.
Voilà, ça annule les tremblements. 80% de ceux-ci sont limités. Alors, les mouvements sont encore possibles, les gens peuvent quand même bouger, mais des mouvements beaucoup plus lents. Dès que les mouvements sont saccadés, la toupie va réussir à les limiter en fait.
D'accord.
Donc, la paire de gants, pour l'instant, n'est pas encore. Le prototype est terminé, mais elle va être commercialisée à partir de septembre 2016, normalement au Royaume-Uni. Bon, par contre, c'est une paire de gants qui va être assez chère, entre 400 et 600 pounds, mais qui devrait du coup aider pas mal de gens dans leur quotidien, sachant que l'équipe de chercheurs londoniens est en train de travailler sur plein d'applications du coup pour les faire même sur d'autres parties du corps, pour vraiment aider les personnes à déjà ne plus avoir ce trouble-là, ce handicap-là.
Alors ça, c'est la première innovation gants, Constance, mais je vois bien dans votre regard que vous en avez d'autres.
Voilà, j'en de la paire de gadgetos, si je puis dire, excusez-moi cette mauvaise blague. Du coup, je reste dans le domaine...
On a tous fait pire, vous savez, donc il n'y a pas de souci.
Je reste dans le domaine médical, donc cette fois-ci, c'est sur ce qui est rééducation fonctionnelle. Alors l'équipe de chercheurs de l'université de Singapour a développé une paire de gants qui permet aux personnes qui sont gravement blessées ou alors du coup qui ont des problèmes neurologiques au niveau des mains de faire leur rééducation eux-mêmes à domicile. Alors, ça s'appelle le gant EsoGlove. Alors, il faut savoir, en fait, que la rééducation des mains, ça nécessite beaucoup de mouvements où on va aller attraper quelque chose, relâcher cette chose de manière répétitive qui prenne beaucoup de temps.
Pour réapprendre les gestes du quotidien.
Voilà,
en fait.
Les gestes les plus basiques. Mm-hmm. Et en fait, ça nécessite du coup d'avoir un thérapeute à côté de soi, donc un rendez-vous médical, ce qui peut prendre du temps pour, voilà, pour le décrocher. Donc, pour éviter d'avoir cette attente et pour permettre aux gens même de faire des exercices plus réguliers, ces gants, en fait, du coup, ont des capteurs qui détectent les muscles aussi pour éviter les blessures et permettre des mouvements qui sont vraiment adaptés. Mm-hmm. Ils sont très légers, flexibles, et c'est du coup très intuitif pour le patient pour faire tous les mouvements à domicile sans avoir à aller voir un médecin. Donc, les premiers essais cliniques là, vont être lancés à partir de février 2016 sur 30 patients volontaires. Et ensuite, ça devrait être généralisé voilà, aussi pour tous les gens qui veulent réapprendre à se servir de leurs mains de cette manière-là directement chez eux.
Très bien. Et bien voilà. Deux gants innovants présentés par Constance. Constance qui écrit des trucs sur sa main, je viens de le voir. Donc la prochaine fois, il faudrait que vous mettiez des gants.
Pour cacher toutes mes bêtises.
C'est quoi? C'est des anti-sèches pour l'émission ou c'est autre chose?
C'est mon pense-bête et dès que je me lave les mains, il n'y a plus rien.
Ah oui.
Très pratique.
D'accord. Eh oui. Constance donc. Merci beaucoup. Et tout de suite, on retrouve notre Silicone Carnet avec vous, Nathalie Doré, depuis l'atelier US. Et on va s'intéresser cette semaine à la RH. On va parler de ressources humaines et de digital, Nathalie. Est-ce que ça fait bon ménage, tout ça?
Oui, ça fait bon ménage et il est même conseillé d'en faire beaucoup, beaucoup. Alors, c'est un chantier très vaste hein, au niveau des ressources humaines. Cela va de l'automatisation de certains processus, de la digitalisation du recrutement, par exemple, à la mise en place de modèles prédictifs pour connaître quels vont être les futurs besoins de l'entreprise en termes de compétences.
Alors, prenons par exemple le processus de recrutement. Qu'est-ce que ça a changé?
Alors, souvent, quand on parle de recrutement, on voit la partie plutôt immergée de l'iceberg et on pense aux candidats qui désormais utilisent des sites internet, des plateformes pour rechercher un job. Et souvent, d'ailleurs, ils postulent directement sur ces plateformes en ligne en laissant donc un CV et des lettres de motivation. Eh bien, ce que l'on sait moins, c'est que sur ces plateformes-là, la première étude de la candidature est très souvent faite par des robots qui vont aspirer votre CV et les rejeter, malheureusement, si votre CV, votre lettre de motivation ne trouve pas les bons mots-clés attendus pour le poste pour lequel vous avez postulé. Voilà. C'est un peu dur de se faire refuser par un robot et en plus, ça laisse moins de place à la diversité des profils. Donc finalement, ça donne lieu à des pratiques qu'on voit de plus en plus ici. Ce sont que les candidats essayent un peu à la Google de repérer les mots-clés dans les annonces et de les réintégrer dans leur CV, dans leurs lettres. Voilà, c'est donc déjà pas très facile de chercher un job. Alors si en plus, il faut se transformer en anticipateur de robot, ça devient parfois compliqué.
Bah, c'est un job à temps plein en fait. Donc on s'attend pas forcément à ces robots dans ce cas. Vous avez des conseil à donner cette fois-ci, côté recruteur?
Oui, alors si je devais en garder qu'un, ce serait autour de la data, autour de la donnée. Les recruteurs voilà, ont besoin de connaissances déjà de leurs collaborateurs et ils ont besoin aussi d'anticiper les futures compétences dont l'entreprise va avoir besoin. Alors aujourd'hui, l'usage d'algorithmes via des sites spécialisés comme Jilt.com ici, mais il y en a beaucoup d'autres, permettent de faire une détection plus pointue des candidats et de recevoir les bons profils au bon moment. Donc ce sont des aides au recrutement qui sont intéressantes amenées par le digital. Et si on va même un cran plus loin, l'analyse de la data peut même permettre de faire du prédictif, de la prédiction sur les besoins. Et il y a aussi ici des acteurs du big data qui promettent de pouvoir estimer les futurs besoins de l'entreprise et chercher les bons talents. Et si vous n'êtes pas dans une phase de recrutement, mais vous voulez plutôt faire évoluer vos collaborateurs, eh bien, ils vous proposent les bonnes formations pour aller vers les bonnes compétences de demain.
C'est intéressant parce que là, on est vraiment dans l'anticipation des besoins de l'entreprise, hein, Nathalie.
Oui, François. Alors, ça passe vraiment par de l'anticipation aux ressources humaines. D'ailleurs, LinkedIn, gros acteur du sujet présent ici en Silicon Valley, a fait un pas dans ce sens l'année dernière en faisant l'acquisition de Lynda, hein, une plateforme de formation en ligne. Et en fait, ça montre bien qu'on peut avoir du coup une photo de l'entreprise aujourd'hui, une photo de l'entreprise demain, en pensant à tous les challenges qu'elle va avoir et parfois elle va devoir pivoter. Et ces outils vont permettre de former les collaborateurs pour qu'ils soient précieux et actifs dans l'entreprise de demain. Donc la promesse est assez belle et on voit que les MOOC, donc c'est l'acronyme de Massive Open Online Course, permettent de faire ces évolutions. Et ce qui est intéressant, c'est que ça y est, on a assez de maturité pour avoir des premiers chiffres sur l'utilisation des MOOC, car ici aux États-Unis l'adoption est assez massive. Alors c'est l'université de Wharton en Pennsylvanie qui a communiqué là récemment ces chiffres et depuis 2012 2012, année où ils ont commencé à proposer des MOOC, depuis ils en proposent 18, et ben ils ont eu 2,7 millions de personnes qui se sont connectées et formées. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens sont souvent d'ailleurs des full-time en entreprise. Voilà, donc digital et RH font bon ménage et il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine.
Voilà, le Silicon Carnet de Nathalie Doré depuis San Francisco. Vous restez avec nous la suite de cet atelier avec le Focus Startup et notre enquête de l'atelier. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant sur BFM Business, ça sera notre enquête de l'atelier et on va découvrir une expérience shopping toujours plus personnalisée avec deux pépites françaises qui sont dédiées au shopping, on va dire 2.0 ou 3.0. Ce sera dans un instant notre enquête de l'atelier avec nos invités. Mais auparavant, c'est notre focus startup avec vous, Aurore Géraud, et on va s'intéresser à Kiabi qui lance un hackathon sur le big data.
Oui, on reste donc dans le prêt-à-porter d'une certaine manière. Et avec nous pour en parler, Elisabeth Zender, qui est data scientist chez Kiabi. Elisabeth, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, Kiabi se lance dans le big data, dans un big data challenge en partenariat avec l'université Lille 1. Alors, c'est quoi un big data challenge ?
Eh bien, voilà. En fait, effectivement, nous organisons cet événement en partenariat avec Lille 1. Voilà, et donc ça va durer 3 mois, du 26 janvier au 29 avril. Et en fait, 6 équipes mixtes composées de collaborateurs Kiabi et d'étudiants data scientists du master CIA de Lille 1 vont se mobiliser pour répondre à des questions exploratoires autour de la connaissance client. Voilà, donc c'est une première dans l'univers de la mode. Et puis c'est une démarche gagnant-gagnant qui vise à un objectif pédagogique pour les étudiants du master. Et puis pour Kiabi, l'objectif, c'est une construction d'écosystèmes autour du big data.
Et c'est quoi l'intérêt, enfin l'avantage pour une marque comme Kiabi de se lancer dans une sorte de hackathon ?
Eh bien, en fait, ce big data challenge s'intègre dans le processus d'innovation de Kiabi, qui a démarré depuis quelques années. Et en fait, chez Kiabi, nous avons pris le virage du big data en 2014. Et c'est vrai que, enfin, côté Kiabi, on aurait pu rester entre nous, c'est vrai. Mais nous pensons qu'il est crucial de s'ouvrir, de rester curieux, et puis voilà, de repenser aussi nos façons de travailler, d'aller chercher des idées à l'extérieur. Donc en fait, là, il s'agit vraiment de répondre à des questions exploratoires. Voilà, mais qui sont portés par des responsables métiers, mais qui potentiellement ont un intérêt pour le business qui y habite. Et puis aussi, en parallèle, de donner l'opportunité à nos étudiants de travailler sur des problématiques tournées vers l'entreprise. Voilà, et puis pourquoi pas réinventer nos métiers au travers d'une perception des étudiants.
Donc,
voilà.
Donc Big Data, c'est un peu large. Pourquoi pas un hackathon du style magasin connecté très classique ?
Eh bien, en fait, oui, enfin, le magasin du futur, le magasin connecté, tout ça, c'est des choses également qu'on regarde de près. Et puis, la démarche d'innovation globale de Kiabi embarque ce type de problématiques. Maintenant, ce qui est important, c'est que aussi pour un magasin connecté, enfin, qui dit magasin connecté, dit data. Et finalement, la data est un outil de l'innovation. Donc voilà, l'intérêt aussi, c'est d'avancer sur ces outils data qui vont nous permettre d'innover chaque jour autour des usages clients. Que ce soit par exemple pour le parcours client, la personnalisation. Voilà, si on veut accueillir mieux aussi notre client en magasin, on aura besoin de la data.
Et vous attendez quoi comme application possible ?
Oui, on peut avoir peut-être un exemple ou deux ?
Eh bien, oui, pourquoi pas. En fait, en termes de sujets exploratoires, il va y avoir des choses autour de l'adéquation entre le profil client et les produits qu'il achète. Il y a des gens qui portent des sujets autour de la météo, donc en quoi la météo et l'activité vont être liées. Et puis, on a des sujets beaucoup plus ouverts, par exemple, qui vont viser à surprendre davantage l'expérience client. Voilà, donc en fait, ce qu'on dit à nos étudiants, là, bah, c'est surprenez-nous surprenez nos clients grâce à la data.
Parfait, merci beaucoup.
Merci
Elisabeth
Zender.
Merci à vous.
Data scientist chez Kiabi. Merci beaucoup Aurore Géraud et place maintenant donc à notre enquête de l'atelier, comme chaque samedi dans l'atelier numérique sur BFM Business. D'ailleurs, merci d'être avec nous. En compagnie de Lila Megraoua, on va parler de personnalisation de l'expérience shopping. Lila.
Tout à fait.
Et vous n'avez pas choisi ce sujet parce que vous adorez le shopping. et parce que c'est les soldes. C'est pas du tout ça.
Non, c'est pas du tout ça.
Pas du tout ça.
Pas du tout, du tout.
Ça, c'est la vraie investigation journalistique.
Justement, c'est les soldes. Parlons shopping. On va parler e-shopping. À la fois personnalisation de l'expérience shopping au bénéfice des consommateurs et des marques. Alors, on va creuser le sujet avec deux représentants de pépites, on peut dire pépites françaises de l'e-commerce, Content Square et One4You Corporate Shopping. Pour en parler, on a le plaisir d'avoir en studio Christophe Jacquet. Bonjour.
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 Alors, Christophe Jacquet, vous êtes fondateur de One4You Corporate Shopping. Et Jonathan Cherki, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de Content Square. On va commencer par vous, Christophe Jacquet. On va essayer de découvrir découvrir ce qui se cache derrière ce terme de corporate shopping. C'est quoi le corporate shopping?
Alors, One4You effectivement a lancé le premier site de corporate shopping il y a maintenant un an. Et le corporate shopping, c'est un grand magasin virtuel qui vient connecter les plus grandes marques avec les salariés des entreprises qui ont la chance de pouvoir bénéficier de One4You. One4You propose des prix préférentiels sur les plus belles marques et aujourd'hui on est dans une logique de disrupter le marché des comités d'entreprise.
Alors comment, en dépoussiérant un peu les pages, les mails envoyés aux collaborateurs des grands groupes, moins 20% sur telle marque. Vous misez, en préparant l'émission, vous me disiez que vous misez vraiment sur les tendances actuelles, sur à la fois les vêtements, mais pas seulement.
Les marchés sur lesquels on intervient sont les marchés de la mode, beauté, maison, gourmet, voyage, lifestyle. Mmh. On est vraiment sur les marchés plaisir, qui sont historiquement des marchés qu'on trouvait pas dans les entreprises. Les entreprises étaient plutôt dans une démarche de faire profiter de billetterie. Mmh.
Réduction dans la salle de sport, ça marche bien.
La réduction
aussi
dans la salle de sport également, mais il était très rare, voire jamais, on avait la possibilité en tant que salarié de bénéficier davantage sur des marques de mode sympas qu'on aime et qu'on a envie d'acheter au quotidien, en sachant que notre particularité, c'est qu'on intervient vraiment sur les nouveautés. C'est-à-dire que on n'est pas en train de faire du prix sur des anciennes collections ou faire du déstockage. Nous, notre créneau, c'est de pouvoir connecter les marques avec les salariés et que les salariés puissent avoir une shopping expérience sur le site e-shop de la marque ou dans les boutiques des marques.
Vous pouvez nous donner un exemple ou pas?
Alors, par déontologie, je peux pas vous parler des marques. C'est le principe de One4You qui a un caractère très confidentiel parce que les offres qu'on propose sont, le grand public peut pas y accéder. Mais pour vous donner quelques idées de ce qu'on a pu faire, par exemple, vous allez trouver vos marques préférées de cosmétiques à moins 30% toute l'année sans minimum d'achat. Vous allez pouvoir participer à des ventes qui sont habituellement réservées aux salariés de grands groupes qui peuvent intervenir sur des marchés comme le marché du luxe. Et vous allez pouvoir, en tant que membre de One4You, vous rendre à ces événements avec un sésame qu'on offrira à nos membres.
Alors il va falloir qu'on suggère ça à Next Radio TV, là. Ça a l'air pas mal.
Je pense.
C'est une très bonne idée.
C'est une bonne idée.
Alors, pour se représenter, est-ce qu'il s'agit d'une marketplace ou est-ce que, au contraire, vous redirigez vers les e-shops ou vous réalisez une forme d'affiliation?
C'est ça. C'est une forme d'affiliation, sachant que c'est à la fois sur les e-shops et à la fois dans les boutiques physiques des partenaires avec lesquels on travaille. Mais le point, c'est notre principe, c'est que la plus belle shopping expérience, la plus belle expérience d'achat, c'est la marque qui peut l'offrir. Mmh. Et dans ce cadre-là, effectivement, on ne vend pas nous en direct. On renvoie nos membres sur les sites de nos partenaires.
Alors, si les e-shops existent de ces marques, quel serait l'intérêt direct pour une marque de faire partie de One4You, de proposer
J'ai travaillé pendant plus de 10 ans pour des marques et on avait toujours sur le coin de notre table comment pénétrer le marché du corporate, le marché de l'entreprise qui est un marché énorme de plusieurs milliards, mais on n'avait pas d'outils pour y aller parce que c'est un marché complexe pour y accéder. Donc l'avantage pour les marques, c'est de leur ouvrir avec un point de contact qui est One4You, l'ensemble de ce marché-là. Aujourd'hui, on a 100 grandes entreprises avec lesquelles on travaille. Demain, on en aura 400, 500, 1000 et plus. Voilà. Le deuxième, c'est que ça permet aux marques de parfaitement contrôler leur distribution. C'est-à-dire que quand elles offrent un avantage prix à nos membres, elles peuvent décider de à quelle entreprise elles vont offrir cet avantage. Il y a un caractère sélectif. Et le dernier point, et qui est le plus important, aujourd'hui, les marques sont dans une quête de vendre en direct auprès de leurs clients, et on leur offre cette opportunité-là de leur parler en direct et d'agir sur le prix, qui est indispensable aujourd'hui compte tenu du contexte prix dans lequel on est, sans toucher l'intégrité de leur marque. Voilà. Quand vous êtes une marque premium, agir sur le prix, c'est toujours délicat, mais vos partenaires multimarques, distributeurs agissent en permanence sur le prix, et là on leur donne un sens pour pouvoir recruter et faire venir les clients sur leur site.
D'accord. Une autre initiative, donc One4You, bravo, One4You Corporate Shopping, un autre pan de la personnalisation de l'expérience shopping, c'est vous qui l'a proposé, Jonathan Charky, avec Content Square. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu le principe? Vous faites de l'optimisation de site e-commerce. Je saurais pas comment vous résumer, parce que à la fois vous êtes capable de déterminer le comportement.
Alors l'objectif de Content Square est de permettre de faciliter l'expérience utilisateur et la navigation sur un site internet ou une interface mobile. Pour ça, on a créé Content Square il y a plus de 4 ans maintenant. On compte une centaine de clients, essentiellement des top e-commerçants comme Vente Privée, Orange, L'Occitane, Accor, qu'on accompagne sur comprendre le comportement des utilisateurs. Pour pouvoir faire cela, on a développé une technologie qui va suivre le mouvement de la souris des internautes pour comprendre ce qu'ils voient, où est-ce qu'ils passent du temps. Et cette entreprise, on l'a créée partant du constat suivant. Sur 100 personnes qui rentrent dans un magasin, il y en a en moyenne 20 qui achètent. Sur 100 personnes qui arrivent sur un site internet, il y en a 1 qui achète. Pour pouvoir augmenter les ventes des sites internet, les e-commerçants ont pendant longtemps appuyé sur le bouton acquisition, faire venir plus de gens. Mais les coûts d'acquisition d'un client ont augmenté. Donc, il a fallu trouver d'autres sources de rentabilité. La personnalisation de la navigation permettant de proposer un site différent à vous, Lila, ou à vous, François, va nous permettre d'augmenter le taux de conversion. On a été élu l'année dernière par le cabinet américain Gartner comme une des 4 technologies les plus innovantes au monde au e-commerce. On était 25 personnes. L'année dernière, on est plus de 75 personnes actuellement.
Et on peut l'augmenter de combien, ce taux de conversion, comme vous dites?
Bon, le taux de conversion, son augmentation va varier en fonction de la maturité des sites, mais on peut attendre des augmentations entre 10 et 30%. La première étape, c'est de comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Et pour pouvoir comprendre, il faut essayer d'analyser ce que les gens font. Exemple, en analysant le déplacement de la souris des gens et leur navigation, on va voir qu'il y a X% des gens qui passent du temps dans cette zone de la page. Est-ce que les gens qui passent du temps à lire un texte vont ensuite acheter ou convertir? Partant de cette analyse-là, on propose à nos clients des recommandations. C'est ce que permet de faire notre logiciel, donc de proposer ces recommandations pour ensuite tester des nouvelles versions de parcours. Si je prends un comparatif avec un magasin physique, imaginez-vous dans un hypermarché, vous déplacez votre caddie en fonction de ce que vous voyez, du fait que vous êtes arrêté devant un kakémono, du poivre que vous avez mis dans votre caddie. L'hypermarché se transforme en épicerie de 50 mètres carrés adaptée à vos rêves. Bon ben, l'hypermarché, ce n'est rien d'autre qu'un e-commerce. Le déplacement du caddie, ce n'est rien d'autre que la navigation des internautes. Et aujourd'hui, quand on va dans un magasin, ben, un vendeur, il va nous parler de façon différente en fonction de la manière dont on s'adresse. La première manière d'avoir construit les sites consistait à avoir un site pour tout le monde. L'objectif de la personnalisation de demain consiste à construire un site différent pour chacun.
Alors moi, j'avais une petite question. Oui. Rassurez-moi. Toutes ces données sont anonymes. Vous n'allez pas, lorsque vous allez suivre les souris des utilisateurs, savoir qui est derrière la souris.
Je vous confirme, on ne connaît jamais l'identité de l'internaute. On respecte tout un tas de régulations comme la CNIL. Mais quelque part, on n'a pas besoin de cette information. C'est-à-dire qu'on se moque de savoir qui est l'internaute. Voilà. Ce qu'on veut, c'est pouvoir le catégoriser pour pouvoir lui offrir une expérience utilisateur dédiée. Parce que l'objectif, c'est pas uniquement un objectif d'augmentation des ventes pour les e-commerçants. L'objectif, c'est de permettre aux consommateurs, quand ils cherchent quelque chose, de le trouver directement et de faciliter leur navigation et leur achat.
Finalement, vous faites un peu profession de sociologue et de la consommation, quelque part. Consommation en ligne, est-ce qu'il y a des profils types qui se dégagent? Est-ce qu'il y a des standards culturels qui se dégagent? Je sais pas, on achète différemment en ligne en Allemagne, en France.
Alors déjà, c'est une très bonne question. Sur la partie sociologie, notre base d'analyse, c'est la donnée. Donc on analyse des milliards de données, on parle souvent de big data pour ça, c'est chaque mouvement de souris de chaque utilisateur qui ne sait pas qu'il est en train d'être analysé. Fort de toutes ces données-là, on arrive à différencier des comportements. Alors concrètement, ça veut dire quoi la personnalisation? On a compris qu'on affichait une page différente à un utilisateur différent, mais ça a permis de faire nourrir un certain nombre de spécificités. Exemple, plus d'un Allemand sur cinq va lire les conditions générales de vente avant d'acheter, alors que nous Français n'imaginons pas les lire. Donc un exemple de personnalisation.
On les voit même pas. C'est ça qui est terrible. Des fois, c'est une erreur. Hein.
Mais en tout cas, il y a un.
Alors les Allemands, ils lisent tout ligne par ligne.
Alors ils lisent pas ligne par ligne, mais ils passent du temps à les examiner pour une raison simple, c'est que dans la Constitution allemande, le retour gratuit est inscrit. Ce qui veut dire que quand un Allemand achète deux produits, il en renvoie un. Le taux de retour en France est de l'ordre de 10%. Donc le premier axe de personnalisation, c'est d'adapter localement les parcours de navigation et les sites internet. Autre exemple sur les pays, quand un Français ajoute un produit au panier, il voit 3 images. Lorsqu'un Chinois ajoute un produit au panier, il en voit 20.
Ah ouais, d'accord.
Deuxième axe de personnalisation, la personnalisation par secteur d'activité. Donc, en fonction du comportement de l'utilisateur sur la typologie de site, on va adapter le parcours. Enfin, par comportement utilisateur. Un engourdi va pas se surfer de la même façon qu'un impulsif, ouais, qu'un novice, qu'un client habituel. Et ce qu'on dit juste, c'est que on reproduit un schéma classique avec un humain qui, quand on lui parle, va s'adapter. Mmh. Ce qu'on permet de faire à nos clients, c'est d'adapter le parcours avec une méthodologie simple qui vient de comprendre. 2, de tester pour vérifier que ça marche. 3, d'offrir un site différent à chaque utilisateur. Et c'est devenu une véritable science.
Et ça marche aussi sur mobile, vous.
Et ça marche aussi sur mobile, donc c'est les touches, les zooms,
les touch,
donc on suit le gare à vos mains.
À vos doigts.
À vos doigts.
Surtout. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Jonathan Cherki, je rappelle, vous êtes président de Content Square, et Christophe Jacquet, vous êtes fondateur de One for You Corporate Shopping. Merci messieurs.
À tout de suite sur BFM Business, l'atelier numérique, la suite dans un instant, ce sera notre web stratégie. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique. Vous êtes sur BFM Business. Merci d'être là. Notre passion, selon Sanet, dans quelques instants, on va parler du bad buzz. Comment gérer la crise sur Twitter pour une marque? On verra ça avec un spécialiste tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, c'est notre web stratégie avec un gros plan sur le géant Roche qui investit dans l'innovation. Lila Megraoua.
L'atelier numérique sur BFM Business. La web stratégie.
Oui, François. Alors, cette semaine, on va s'intéresser à la transformation digitale de Roche France. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés d'être reçue par Isabelle Vitali. Bonjour.
Bonjour.
Isabelle Vitali, vous êtes directeur innovation et partenariat de Roche France, grand groupe pharmaceutique s'il en est. Alors, dites-nous, racontez-nous un peu quand, comment vous avez commencé à passer un peu ce virage du digital.
Alors, on a pris un virage assez sec, si je peux m'exprimer ainsi, fin 2014, puisqu'on a souhaité repenser notre modèle commercial chez Roche France, et nous avons souhaité aller au-delà du médicament pour encore mieux répondre aux besoins des patients. Et nous avons pris la décision de mettre en place une nouvelle direction de l'innovation et des partenariats que j'ai la chance de diriger. Et l'objectif de cette, et la mission première en fait de cette direction, c'est de développer ce que nous appelons des solutions intégrées, c'est-à-dire une offre qui va compléter l'offre médicaments en s'appuyant sur les nouvelles technologies de la santé.
Alors pour se représenter concrètement, quels services ont émané déjà de cette direction de l'innovation et...
Alors on a effectivement essayé d'être extrêmement concret en fait dans notre approche, et tout d'abord nous sommes dit que les nouvelles technologies de la santé comme la télémédecine, les objets connectés, les logiciels thérapeutiques, le big data, pourquoi pas la robotique ou la domotique, n'étaient pas notre métier, notre cœur de métier, et donc nous avons opté pour nouer des partenariats pérennes avec des entreprises, quelle qu'en soit leur taille d'ailleurs, hein, qui étaient spécialistes dans ces domaines. Et nous avons travaillé de façon extrêmement concrète sur deux ou trois initiatives, je ne sais pas le temps dont on dispose pour en parler. Une première qui est assez emblématique pour nous, qui est un partenariat que nous avons noué avec une entreprise de taille intermédiaire, qui est Voluntis, expert dans les logiciels thérapeutiques, et avec lequel nous développons, nous co-développons une solution compagnon dans le cancer du sein, pour aider les femmes, en particulier dans les phases d'intercure, à mieux gérer leur maladie en restant en contact avec les professionnels de santé. Un autre exemple, nous avons un partenariat avec le laboratoire communautaire La Paillasse, avec lesquels nous avons pris la décision de monter un programme de recherche scientifique qui vise à mieux comprendre l'épidémiologie du cancer grâce à l'Open Big Data.
Outre votre travail et partenariat avec ce biohacker space qui est La Paillasse, est-ce que vous entretenez d'autres relations avec d'autres acteurs de l'écosystème innovation ?
Alors oui, on essaie de s'inscrire dans cet écosystème, mais toujours avec une volonté de obtenir un résultat, en fait, à l'issue. C'est pas nouer des partenariats pour nouer des partenariats. Donc on a aussi un très joli partenariat avec Hello Tomorrow, avec Xavier Duporté, et ce qui nous permet effectivement d'avoir de la visibilité sur l'écosystème des startups en particulier, et ce qui nous a aussi conduit, dès 2015, à mettre en place du mentoring de startups. Alors on a une jolie histoire avec une start-up qui me tient très à cœur, c'est Damae Medical avec Anaïs Baru. Et cette start-up, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est assez extraordinaire. Donc ils sont très jeunes, hein, de jeunes ingénieurs qui sont en train de mettre en place un dispositif qui permet en fait le diagnostic du cancer de la peau par biopsie optique. Donc c'est assez extraordinaire parce qu'on imagine les bienfaits pour les patients. Et donc durant toute l'année 2015, on a beaucoup appris aussi à leur côté puisqu'on les a mentorés. Et je pense que ça a été un très beau partage en fait d'expérience d'un côté comme de l'autre. Nous on a appris la rapidité, la fluidité, le fait que les circuits de décision sont très courts dans les startups. Donc c'est très intéressant pour un grand groupe comme le nôtre. Et en même temps, on a partagé avec eux, nous, notre expertise sur au plan du réglementaire, la réglementation des médicaments, comment conduire un business plan, comment mettre en place un essai clinique et beaucoup d'autres domaines qu'on a essayé véritablement d'adapter à leurs besoins. On fait cela avec quelques autres startups. Et ce que l'on veut faire en 2016, et ça aussi c'est une de nos ambitions, c'est de construire un label proche pour les start-upers, parce qu'on pense que ça peut être utile aussi pour l'écosystème. Et puis, pour terminer, parce qu'on parle beaucoup des startups, mais comme je vous le disais, on travaille avec Voluntis, qui est une entreprise de taille intermédiaire. On travaille aussi avec des grands groupes, hein, avec Orange Consulting, par exemple, et Orange Healthcare. Mais je pense que c'est important. Ce qu'on veut vraiment, véritablement, c'est s'inscrire avec l'ensemble des types de partenaires, et quelle que soit leur taille. Mais pour nous, filiale française, chose aussi très importante, c'est que l'on veut travailler avec des entreprises françaises. On veut s'inscrire dans notre écosystème et pouvoir participer en fait à l'innovation en France et s'inscrire comme un acteur actif de notre économie.
Vous évoquiez le big data, les objets connectés de santé. Est-ce que ces objets connectés, vous y voyez un intérêt pour éventuellement développer de nouveaux produits ?
Absolument, et c'est d'ailleurs, les objets connectés font partie de notre réflexion dans le développement que nous faisons avec Voluntis. Donc je reviens à la solution compagnon dans le cancer du sein, puisqu'en fait l'objectif c'est de capturer les données sur un logiciel thérapeutique. Donc ces données pourront être capturées soit manuellement par la patiente, soit au travers d'objets connectés tels qu'un bracelet, une balance ou un brassard pour prendre la tension. Ce qui est très important en revanche, c'est qu'est-ce qu'on fait de la donnée. D'abord, quelle est cette donnée et qu'est-ce qu'on va en faire? Nous, notre souhait, ce n'est pas de développer des apps, il y en a déjà beaucoup, et elles ont leur rôle, hein, je ne les critique pas, mais ce que nous voulons faire, nous, en tant que laboratoire pharmaceutique, c'est développer vraiment des dispositifs médicaux que nous voulons éprouver comme on éprouve un médicament. C'est-à-dire que l'usage de ces objets connectés poulés à des logiciels thérapeutiques et le résultat qui va en découler va être évalué au travers d'essais de faisabilité et d'essais médico-économiques pour pouvoir en éprouver la valeur à la fois médicale, la valeur économique et la valeur organisationnelle, parce qu'on imagine bien en fait que mettre en relation les patients quand ils sont chez eux avec l'établissement peut modifier de façon assez drastique l'organisation en milieu hospitalier.
Et c'est-à-dire que ces objets connectés pourraient avoir, en étant préventifs, avoir une vertu curative.
En tout cas, ils sont une très belle opportunité pour être associés à la prise en charge des patients. Ça, c'est sûr. On est en train de travailler aussi avec une autre start-up qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Atscientiam, qui est une start-up qui, aujourd'hui, est incubée à la Pitié-Salpêtrière au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et nous travaillons avec eux pour développer un dispositif qui permettrait donc aux patients de s'auto-évaluer. Et en fait, l'idée, c'est... donc là, on est bien dans de l'objet, hein, de connecter. Ça permettrait donc aux patients de pouvoir mettre en place un auto-suivi de l'évolution de sa maladie, avec en fait une reproduction de ce qui est fait généralement dans les essais cliniques ou dans le suivi des patients, physiquement, avec le médecin, eh bien, chez le patient, au travers de l'outil connecté, du logiciel thérapeutique. Donc oui, pourquoi pas, on verra.
Isabelle Vitali, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes directeur innovation et partenariat de Roche France. Merci.
Lila, merci. On revient dans un instant, suite de cet atelier, avec notre passion selon Sanette. Et puis juste après, ce sera le World Tour. À tout de suite.